Aristote, Politique, livre 3, chapitre 11. Sommaire. Suite et fin de la théorie de la royauté absolue. Supériorité de la loi, bien qu'elle dispose toujours d'une manière générale, elle vaut mieux que le pouvoir arbitraire d'un individu. Auxiliaire obligé que le monarque doit toujours se donner pour pouvoir exercer l'autorité. Condamnation générale de la royauté absolue. Exception maintenue en faveur du génie. Fin de la théorie de la royauté. Paragraphe 1. Notre sujet nous conduit maintenant à la royauté où le monarque peut tout faire selon son bon plaisir, et nous allons l'étudier ici. Aucune des royautés dites légales ne forme, je le répète, une espèce particulière de gouvernement, puisqu'on peut établir partout un généralat inamovible, dans la démocratie aussi bien que dans l'aristocratie. Bien souvent, l'administration militaire est confiée à un seul individu, et il y a une magistrature de ce genre à Épidamne et à Oponte, où cependant les pouvoirs d'un chef suprême sont moins étendus. Paragraphe 2. Quant à ce qu'on nomme la royauté absolue, c'est-à-dire celle où un seul homme règne souverainement, suivant son bon plaisir, bien des gens soutiennent que la nature des choses repousse elle-même ce pouvoir d'un seul sur tous les citoyens, puisque l'État n'est qu'une association d'êtres égaux, et qu'entre des êtres naturellement égaux, les prérogatives et les droits doivent être nécessairement identiques. S'il est physiquement nuisible de donner une égale nourriture et des vêtements égaux à des hommes de constitution et de taille différentes, l'analogie n'est pas moins frappante pour les droits politiques. Et, à l'inverse, l'inégalité entre égaux n'est pas moins déraisonnable. Paragraphe 3. Ainsi, il est juste que les parts de pouvoir et d'obéissance pour chacun soient parfaitement égales, ainsi que leur alternative. Car c'est là précisément ce que procure la loi, et la loi, c'est la Constitution. Il faut donc préférer la souveraineté de la loi à celle d'un des citoyens. Et d'après ce même principe, si le pouvoir doit être remis à plusieurs parmi eux, on ne doit les faire que gardiens et serviteurs de la loi. Car si l'existence des magistratures est chose indispensable, c'est une injustice patente de donner à un seul homme une magistrature suprême, à l'exclusion de tous ceux qui valent autant que lui. Paragraphe 4. Malgré ce qu'on en a dit, là où la loi est impuissante, un individu n'en saura jamais plus qu'elle. Une loi qui a su convenablement instruire les magistrats peut s'en rapporter à leur bon sens et à leur justice pour juger et régler tous les cas où elle se tait. Bien plus, elle leur accorde le droit de corriger tous ses défauts, quand l'expérience a démontré l'amélioration possible. Ainsi donc, quand on demande la souveraineté de la loi, c'est demander que la raison règne avec les lois. Demander la souveraineté d'un roi, c'est constituer souverain l'homme et la bête, car les entraînements de l'instinct, les passions du cœur, corrompent les hommes quand ils sont au pouvoir, même les meilleurs. Mais la loi, c'est l'intelligence sans les passions aveugles. Paragraphe 5. L'exemple emprunté plus haut aux sciences ne paraît pas concluant. il est dangereux de suivre en médecine des préceptes écrits, et il vaut mieux se confier aux praticiens. Un médecin ne sera jamais entraîné par amitié à donner quelques prescriptions déraisonnables. Tout au plus aura-t-il en vue le prix de la guérison. En politique, au contraire, la corruption et la faveur exercent fort ordinairement leur funeste influence. Ce n'est que lorsqu'on soupçonne le médecin de s'être laissé gagner par des ennemis pour attenter à la vie de son malade qu'on a recours aux préceptes écrits. Paragraphe 6. Bien plus, le médecin malade appelle pour le soigner d'autres médecins. Le gymnaste montre sa force en présence d'autres gymnastes, pensant tous deux qu'ils jugeraient mal s'ils jugeaient dans leur propre cause, parce qu'ils n'y sont pas désintéressés. Donc évidemment, quand on ne veut que la justice, il faut prendre un moyen terme. Et ce moyen terme, c'est la loi. D'ailleurs, il existe des lois fondées sur les mœurs bien plus puissantes et bien plus importantes que les lois écrites. Et si l'on veut trouver dans la volonté d'un monarque plus de garanties que dans la loi écrite, certainement, on lui en trouvera moins qu'à ces lois dont les mœurs font toute la force. Paragraphe 7. Mais un seul homme ne peut tout voir de ses propres yeux. Il faudra bien qu'il délègue son pouvoir à de nombreux inférieurs. Et dès lors, n'est-il pas tout aussi bien d'établir ce partage dès l'origine que de le laisser à la volonté d'un seul individu? De plus, reste toujours l'objection que nous avons précédemment faite. Si l'homme vertueux mérite le pouvoir à cause de sa supériorité, deux hommes vertueux le mériteront bien mieux encore. C'est le mot du poète. Deux braves compagnons quand ils marchent ensemble. C'est la prière d'Agamemnon demandant au ciel d'avoir 10 conseillers sages comme Nestor. Mais aujourd'hui même, dira-t-on, quelques États possèdent des magistratures chargées de prononcer souverainement, comme le fait le juge, dans les cas que la loi n'a pu prévoir. Preuve qu'on ne croit pas que la loi soit le souverain et le juge le plus parfait, bien qu'on reconnaisse sa toute-puissance là où elle a pu disposer. Paragraphe 8. Mais c'est justement parce que la loi ne peut embrasser que certains objets et qu'elle en laisse nécessairement échapper d'autres, qu'on doute de son excellence et qu'on demande si, à mérite égal, il ne vaut pas mieux substituer à sa souveraineté celle d'un individu. Car disposer législativement sur des objets qui exigent des libérations spéciales est chose tout à fait impossible. Aussi, ne conteste-t-on pas que pour ces objets-là, il faille s'en remettre aux hommes. On conteste seulement qu'on doive préférer un seul individu à plusieurs. Car chacun des magistrats, même isolé, peut, guidé par la loi qu'il a instruit, juger fort équitablement. Paragraphe 9. Mais il pourrait bien sembler absurde de soutenir qu'un homme qui n'a pour former son jugement que deux yeux, deux oreilles, qui n'a pour agir que deux pieds et deux mains, puisse mieux faire qu'une réunion d'individus avec des organes bien plus nombreux. Dans l'état actuel, les monarques eux-mêmes sont forcés de multiplier leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, leurs pieds, en partageant le pouvoir avec les amis du pouvoir et avec leurs amis personnels. Si ces agents ne sont pas les amis du monarque, ils n'agiront pas suivant ses intérêts. S'ils sont ses amis, ils agiront dans son intérêt et dans celui de son autorité. Or, l'amitié, suppose nécessairement ressemblance, égalité. Et si le roi admet que ses amis doivent partager sa puissance, il admet en même temps que le pouvoir doit être égal entre égaux. Telles sont à peu près les objections faites contre la royauté. Paragraphe 10. Les unes sont parfaitement fondées. Les autres le sont peut-être moins. Le pouvoir du maître, comme la royauté ou tout autre pouvoir politique, juste et utile, est dans la nature. Mais la tyrannie n'y est pas. Et toutes les formes corrompues de gouvernement sont tout aussi contraires aux lois naturelles. Ce que nous avons dit doit prouver que, parmi des individus égaux et semblables, le pouvoir absolu d'un seul n'est ni utile ni juste. Peu importe que cet homme soit d'ailleurs comme la loi vivante en l'absence de toute loi, ou même en présence des lois, ou qu'il commande à des sujets aussi vertueux ou aussi dépravés que lui, ou bien, enfin, qu'il soit tout à fait supérieur par son mérite. Je n'accepte qu'un seul cas, et je vais le dire, bien que je l'ai déjà indiqué. Paragraphe 11. Fixons d'abord ce que signifie pour un peuple les appellations de monarchique, d'aristocratique, de républicain. Un peuple monarchique est celui qui naturellement peut supporter la domination d'une famille, doué de toutes les vertus supérieures qu'exige la domination politique. Un peuple aristocratique est celui qui, tout en ayant les qualités nécessaires pour la constitution politique qui convient à des hommes libres, peut naturellement supporter l'autorité des chefs que leur mérite appelle à gouverner. Un peuple républicain est celui où naturellement tout le monde est guerrier et sait également obéir et commander, à l'abri d'une loi qui assure à la classe pauvre la part de pouvoir qui doit lui revenir. Paragraphe 12. Lors donc qu'une race entière, ou même un individu de la masse, vient à briller d'une vertu tellement supérieure qu'elle surpasse la vertu de tous les autres citoyens ensemble, alors il est juste que cette race soit élevée à la royauté, à la puissance suprême, que cet individu soit pris pour roi. Ceci, je le répète, est juste, non seulement de l'aveu des fondateurs de constitutions aristocratiques, oligarchiques et même démocratiques, qui ont unanimement reconnu les droits de la supériorité, tout en différant sur l'espèce de supériorité, mais encore par le motif que nous en avons donné plus haut. Il n'est équitable ni de tuer, ni de proscrire par l'ostracisme un tel personnage, ni de le soumettre au niveau commun. La partie ne doit pas l'emporter sur le tout, et le tout est ici précisément cette vertu si supérieure à toutes les autres. Il ne reste donc plus que d'obéir à cet homme et de lui reconnaître une puissance non point alternative, mais perpétuelle. Paragraphe 13. Nous terminerons ici l'étude de la royauté, après en avoir exposé les diverses espèces, les avantages et les dangers, suivant les peuples auxquels elle s'applique, et avoir étudié les formes qu'elle revêt.